Et voilà, le Canadien remporte le match de façon décisive, 5-3. Une belle victoire où tout a fonctionné pour l'équipe de Martin Saint-Louis. C'est parti, bon match!
Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Bon Match, épisode numéro 18. Salut Danny.
Salut Martin.
Alors, pendant cet épisode numéro 18, on va parler bien sûr du Canadien. Le Canadien qui parvient à battre les meilleures équipes de la Ligue nationale, à leur tenir tête. Comment ils s'y prennent actuellement? La chimie entre Suzuki et Caulfield, Danny, est-ce que c'est encore aussi évident que ça l'était? Est-ce qu'un certain Slavkovski va changer la donne? On va jaser de ça durant cet épisode-là. Et aussi, le Canadien qui tende à vouloir devenir une équipe un peu plus physique, un peu plus robuste. Est-ce qu'il se dénature? Est-ce qu'on va ajouter un complément qui va permettre à l'équipe d'aller plus rapidement à la terre promise? Qu'est-ce que t'en penses, Danny, si on commençait avec ça? Des joueurs du Canadien, même l'entraîneur a dit la robustesse, va falloir que ça fasse partie de notre ADN, va falloir que ce soit dans notre jeu puis dans notre style. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est la bonne façon de faire?
Écoute, moi j'aime bien l'idée de se comparer aux autres, pas seulement avec des buts et des passes. Mm-hmm. On pourrait, à un moment donné, là, faut que tu trouves ton talent, où tu l'as, puis il faut que tu sois capable de motiver ton équipe avec différents éléments. Alors, c'est sûr que, tu sais, dans le match d'hier, par exemple, là, parce que là, aujourd'hui, là, on est en train d'enregistrer, puis hier, le Canadien a battu quand même une des bonnes équipes de la Ligue nationale en parlant des Panthers de la Floride. Ben, effectivement, tu sais, c'est un élément porteur. Quand tu es capable de dire à ton équipe, bon, on va affronter la meilleure équipe défensive, on va affronter un gars qui est très bon sur les tirs bloqués, toujours dans nos lignes de tir, il faudra surveiller ce gars-là, il faut être capable de s'élever au niveau des meilleures équipes dans tel département. C'est exactement ce que l'entraîneur a fait hier. Puis c'est drôle, hein? Ça a donné quelque chose de spécial parce que son équipe, je trouve, a joué un petit peu différemment des autres matchs.
Un petit peu différemment, puis ça a l'air à plaire aux joueurs, Danny, honnêtement. Je pense que Caden Goulet l'a verbalisé, lui, il a dit « On a des gros joueurs dans cette équipe-ci, puis ça doit faire partie de nos couleurs. Le jeu robuste, le jeu physique. Martin Saint-Louis va dans le même sens, puis il va plus loin encore, puis il dit « On doit initier. » On doit pas seulement subir puis s'ajuster, on doit initier. Moi, en tout cas, là, ça me fait du bien d'entendre ça chez le Canadien. On doit plus subir, on doit mettre les choses en avant puis imposer nos affaires un peu aux autres équipes. Ça trancherait pas mal avec le Canadien, même le Canadien des dernières années qui a réussi à être une équipe gagnante, où on avait toujours le sentiment qu'ils étaient la victime de quelque chose. Victime de se faire frapper, victime de se faire abuser, victime du laxisme des officiels. On dirait que là, en tout cas, moi je trouve, Danny, qu'on amène des affaires pas mal rafraîchissantes, puis des affaires qui mettre d'autres choses en avant pour le Canadien, qui projette plus d'affaires concrètes pour faire enfin de cette équipe-là une équipe gagnante.
Tu sais, quand l'entraîneur parle du nouveau hockey ou la nouvelle façon de jouer ou mm-hmm. ce qui se passe actuellement dans la Ligue nationale, il revient souvent avec cette phrase-là en disant « Ouais, mais tu sais, le hockey, ça joue comme ça maintenant. » T'sais, il revient souvent avec une phrase un peu de cet acabit, un genre de phrase comme ça. Mais au moment où tu t'arrêtes, tu y penses, lorsqu'il parle d'initier, ça veut dire de mettre la pression. Mm-hmm. Mettre la pression, ça veut dire d'éloigner la rondelle du centre. Éloigner la rondelle du centre, ça veut dire augmenter tes qualités en termes d'équipe défensive, puis de rendre la vie difficile à l'adversaire. Hier, avant le match, je te disais, il y avait trois équipes qui avaient 2000 mises en échec et plus dans la Ligue nationale, les Panthers étant la première équipe. Bon, ce matin, on est à quatre équipes parce que Nashville était tout près.
Oui.
Il y a quatre équipes dans la Ligue nationale qui ont atteint 2000 mises en échec. C'est tout, là. Les autres, là, c'est en bas de 2000. Puis lorsque tu parles du Canadien de Montréal, c'est 1600 mises en échec. Fait que c'est sûr que lui, il regarde les bonnes équipes de la Ligue. Il regarde, par exemple, Vegas, qui est à 1800. Puis lui, dans sa tête, il se dit, on doit être plus haut. On doit pas être passif. On doit devenir une équipe qui est à la poursuite de la rondelle parce que quand tu dis à tes joueurs de poursuivre la rondelle, ça veut dire que tu veux réduire le temps où l'équipe adverse a la rondelle. Fait que c'est tout ça, là. T'sais. Dans le message, il ne dit pas toutes ces affaires-là aux joueurs.
Non,
mais
non.
À la fin, c'est ça que ça,
c'est ça que ça
lui,
veut dire.
C'est le résultat qu'il cherche. Ouais,
c'est ça que ça veut dire. Puis il parle aussi que le Canadien. Ça, il disait il y a une couple de semaines, puis tranquillement, pas vite, on a vu l'amélioration. L'amélioration du jeu du Canadien entre le moment où ils ramassent la rondelle dans leur territoire, ils font leur sortie de zone, ils passent leur ligne bleue, puis là, la prise de décision qui vient après la ligne bleue du Canadien, la ligne bleue défensive, vers l'autre zone. Il y a une amélioration nette, Danny, parce que si tu veux être, puis là, faut mettre le terme bien entre guillemets, là, si tu veux être l'agresseur, puis quand on parle d'agresseur, là, on parle pas de donner des coups sur la tête aux autres joueurs, là. C'est l'agresseur en termes d'attaque. Si tu veux être l'agresseur, puis si tu veux être l'équipe qui installe son jeu physique, il faut que tu partes bien de ta zone. Et ça, au moins, le Canadien le fait bien. C'est une première bonne étape pour réaliser cet objectif-là.
Oui, ils sont meilleurs qu'ils étaient. Pour sortir la rondelle du territoire, prennent probablement de meilleures décisions, mais ça se traduit pas nécessairement en chiffres. OK? Si tu regardes depuis le début de l'année, là, le Canadien...
Ou pas encore en chiffres, Danny, ça va se traduire éventuellement, ou peut-être pas encore, c'est-tu ça?
Bien, ce que je dis, c'est que on voit qu'il y a une attention, on voit que les joueurs sont vraiment plus conscients de ça, mais en chiffres, le Canadien, c'est encore une équipe qui fait beaucoup de revirements. C'est encore une équipe qui se trouve parmi les équipes de tête dans la Ligue nationale. Mais c'est pas toujours tout négatif, parce que si tu as beaucoup de revirements, tu es aussi obligé de considérer ton temps de possession. Ça veut dire que tu l'as, la rondelle. Bon, maintenant, c'est sûr que tu vas avoir une meilleure gestion, mais je te dirais que les Canadiens, les Oilers d'Edmonton, les Leafs de Toronto, les Prédateurs de Nashville, ça, c'est dans le même paquet, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est comme... Tu peux voir ça de différentes façons. Fait que je pense que tu veux pas être dans le haut de la liste pour avoir l'équipe championne avec le plus de revirements. Mais si tu as à faire des revirements, tu veux quand même que ton équipe soit consciente qu'il y a des endroits où tu peux pas en faire. Puis une des places où l'équipe... Je regarde l'autre soir, là, encore hier, Cole a fait une coupe là, sur la ligne bleue du Canadien puis sur la ligne bleue de l'adversaire en entrée de zone. C'est les deux places où tu peux pas en faire, où tu veux pas en faire. Parce que lorsque tu en fais, tu ouvres la porte à des situations numériques.
Il y a de la place. Parce qu'il y a de la place pour contre-attaquer là.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben moi, je sais pas, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il se dit aux joueurs? On n'est pas dans le vestiaire, toi, puis moi, là.
Mais, c'est plate.
Mais c'est plate, mais c'est ça. Puis quand on l'est, ben, l'entraîneur n'est plus là. Fait que ça, c'est pas pareil. Mais tu comprends avec moi que ça reste une statistique importante. À la fin de l'année, là, tu veux. Je donne un exemple parce que les gens, des fois, ils se disent ouais, mais les revirements, c'est combien, tu sais. Le chiffre que tu veux avoir, tu vas être autour de 500. Tu veux pas aller plus haut que ça. T'aimerais ça être dans 500. Quand tu es dans 500, à ce point-ci de l'année, là, mettons, je prends les équipes moyennes qui ont quand même du talent avec la rondelle. Tiens, prenons la Floride. La Floride, c'est un bon exemple.
Oui. Oui.
Bon, les autres sont à 568. Ils vont finir l'année peut-être un petit un 30-40 en haut de ce que les entraîneurs aimeraient. Puis ils sont carrément dans le milieu du peloton, 15e, là, à peu près. Là. Tu sais, je te dis ça avec les notes d'hier. Là. Ça fait que c'est la gestion. C'est qui sont tes joueurs qui font des revirements aussi? Parce que t'aimerais bien que tes joueurs qui font plus de revirements, ce soient des joueurs qui jouent pas contre les meilleurs trios de l'autre côté. Fait que si tu fais un revirement et tu donnes la rondelle à l'autre équipe, tu voudrais quand même pas que ce soit Jake Evans qui redonne la rondelle à Barkov, tu sais,
non.
Par exemple.
Laisse-moi revenir, Danny, à l'aspect physique. Il y a une chose qui est bien importante actuellement. Le jeune Slavkovski, on a vu Goulet récemment, puis là, j'exclus sa suspension parce que ça, c'était comme une petite crampe au cerveau. C'était quelque chose qui donnait pas nécessairement grand-chose. On aimerait que Anderson embarque dans cette vague-là, là. Mais le Canadien devrait avoir une grosse équipe à la ligne bleue. Si on intègre Lane Hutson, comme tout le monde le souhaite, on souhaite que ça marche, puis on souhaite qu'il devienne l'espèce de défenseur exceptionnel que le Canadien attend depuis très longtemps. Alors, pour l'intégrer, lui, on voit que autour de lui, ça va être des gros garçons. Des gros garçons qui, de plus en plus, Danny, ne sont plus passifs. Ça frappe, ça joue dur. Puis ça va donner une couleur aux Canadiens vraiment particulière. Puis je me répète, là, mais le Canadien est pas allé là depuis longtemps, Danny. Puis la tendance des équipes qui ont gagné la Coupe, ça, tu n'as parlé à maintes et maintes reprises, la tendance, c'est que si t'es pas gros à la défense, t'as de la misère à te rendre au bout. Alors là, le Canadien s'en va dans cette direction-là. Puis d'avoir aussi une coupe de gros attaquants comme Slavkovski, qui va se greffer aux joueurs de talent, ça va donner une couleur que le Canadien a pas eu depuis longtemps.
Oui. Puis, tu sais, il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de mentionner par rapport aux gros joueurs. Moi, l'an passé, je reviens là-dessus parce que à un moment donné, on a eu une discussion à propos de la formule gagnante, tu sais, parce que chaque année, on veut copier la formule gagnante.
Donc, le gagnant qui gagne de la Coupe, là, c'est ça.
L'équipe qui gagne la Coupe cette année, on veut les imiter. On dit, on va se bâtir une équipe comme eux autres qui ont gagné, on va faire pareil. Parce que la Ligue est pas mal comme ça. Ils l'appellent la Copycat League. On copie. On essaye de faire. Puis même dans les matchs, là, on regarde la vidéo.
La stratégie.
Oui, on regarde la stratégie de l'autre et on essaye de la copier.
Il y a à peu près 7-8 stratégies différentes qui sont éparpillées dans 32 équipes. Essentiellement, c'est ça.
Puis 7-8 qui se ramènent à 2-3. Là. C'est pas,
à la fin de la journée, oui.
À la fin de la journée, c'est pas mal pareil. Donc, pour revenir à ça, c'est que une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que, premièrement, le niveau d'activité défensive des Golden Knights est très élevé. Donc, eux autres, là, quand tu joues contre eux autres, ils sont toujours après le puck. Ils courent toujours après la rondelle. Fait qu'ils te laissent pas, ils reculent pas. Là. C'est pas des équipes que on n'a pas de chance, on recule. Non, non. On recule pas. Si on ne te court pas d'avant, on va te courir en arrière. On va être en repli, on va te courir après.
C'est ça.
On te court, on te poursuit, on te pourchasse. Donc, ne donne que très, très peu de tirs de qualité. Ils vont te concéder des tirs, mais ça va presque constamment être des tirs hors l'aile. Après ça, il va avoir des retours de lancer, c'est sûr. Là, tu vas bagarrer contre des gros défenseurs format géant. Parce qu'eux autres, là, il y avait une brigade défensive très lourde l'an passé. Puis c'est encore ça cette année. Donc, si tu veux avoir du succès, tu poursuis l'adversaire. Et là, visiblement, l'entraîneur a pris ça puis a mis ça dans son discours.
Oui.
Puis le deuxième élément, ça va être d'être gros à défense. D'être gros à défense parce qu'il va y avoir beaucoup de retours de lancer. Il va y avoir des jeux qui vont se terminer dans l'enclave.
C'est tout là que ça se fait de toute façon.
Exactement. Oui, mais si tu veux pas avoir de passe directe, tu veux pas avoir de jeu cadré. Si tout à coup, c'est des rondelles sur des deuxièmes chances, ben là, tes gros défenseurs vont avoir beaucoup de succès pour dégager le devant du filet. Ça explique peut-être un peu, pas totalement, mais un peu le fait qu'ils ont gagné quand même la Coupe Stanley avec leur troisième, quatrième gardien. Là, tu sais.
Enfin, Danny, le Canadien ne se présentera plus en victime. Ça, c'est le fun. Ça fait du bien entendre ça.
Ben oui, mais quand t'as des gars comme Jack Hyde dans ton alignement, et Jamie Strobel hier, lui aussi en a brassé quelques-uns, c'est un gars qui est
on le nomme pas lui, mais lui, il va prendre la place de Savard. Il va faire exactement ce que Savard fait. Tu sais, puis ça, c'est important. Puis encore là, c'est toujours dans l'idée de plus être les victimes sur la patinoire. Les pauvres petits Canadiens qui se font taper dessus, puis qui se font sortir de la glace, puis c'est donc injuste, puis là, les séries, puis l'arbitrage est pas bon. Je pense que là, faut dépasser ça. Si le Canadien veut devenir une équipe gagnante, Danny, il faut que ça passe par « on n'est plus des victimes ». Nous autres aussi, on est capable de faire bobo aux adversaires.
Ouais, je sais pas si... faire bobo...
Non, mais c'est une image, Danny. Mais nous autres aussi, on est capable de faire en sorte que les adversaires vont être plus frileux un peu de venir jouer chez nous, de jouer contre nous, d'aller proche de notre gardien. Tu sais, à un moment donné, là, de toujours te fier sur les arbitres, que les arbitres appliquent le livre comme du monde pour que tu puisses avoir des avantages numériques. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné la Coupe avec ça.
Non, T'sais, tu gagnes pas la Coupe Stanley juste avec des gentils garçons, là.
Non.
Ça, c'est sûr. Puis encore plus dans les situations où le jeu se resserre. Puis on a vu hier, là, c'est un match, je sais pas pourquoi ça a tourné comme ça, là, mais ça a tourné comme ça.
Oui.
À un moment donné, là, c'était devenu une place pour les hommes. T'sais, pour les gros gabarits puis les gars forts. Parce que, écoute, ça s'est vraiment frotté les oreilles. Fait que là, vivement Mayu, éventuellement Aaron Backer. Puis bon, sa place, ça nous replace dans le contexte, l'arrivée de Hudson. Mm-hmm. Comment on va gérer ça? Parce que là, je peux te nommer là, 5-6 défenseurs tout de suite, puis Hudson n'est pas encore dans l'alignement.
Ouais.
Fait que, puis ça nous remet en perspective les Barron, les Harris de ce monde, et puis tous les autres jeunes là, dans l'organisation, comme le jeune européen qu'il faut s'amener aussi. Là.
C'est formidable, Danny, parce qu'il n'y aura pas de solution. Ben, on n'a pas le choix, on prend lui, parce qu'on n'a pas d'autre chose. Ouais. Ça aussi, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien de voir ça.
Oui, tu as raison, c'est un très bon point. Le fait que, là, on a le choix, on a l'embarras du choix. Là, on va prendre des décisions. Puis je trouve que pour l'évaluation du personnel jusqu'à maintenant, le personnel hockey en place a une très bonne lecture de ça. Ils ont fait une très bonne évaluation de leurs joueurs jusqu'à maintenant.
Il y a un dernier point pour appuyer ce qu'on dit là-dessus, Danny, c'est Kirby Dack. Dack, on a rapidement décelé chez lui cette agressivité-là. Le fait que ça à glace, il veut rien savoir. Peut-être qu'il va devoir doser pour être moins blessé souvent, peut-être, mais en même temps, cette attitude-là de, tu sais, c'est moi ici, là. Ça peut être porteur, ça ajoute encore un autre gros bonhomme. Puis en même temps, Danny, avec ce qui est en train de se développer entre Slavkovski et Suzuki. Puis là, il faut faire attention parce que les gens vont penser que c'est au détriment de Caulfield. Mais c'est pas au détriment de Caulfield. C'est qu'à ce moment-là, si on est capable de développer quelque chose de concret entre Slavkovski et Suzuki, puis il y a des résultats, puis il y a des buts, puis il y a des passes qui amènent ça actuellement, ben peut-être qu'on va avoir une autre option. C'est peut-être pas fini à jamais, là, Caulfield, Suzuki et Slavkovski, loin de là. Mais l'autre option pourrait bien être Kirby Dack avec Cole Caulfield. Puis ça, encore une fois, ça donne, ben on n'a pas le choix, c'est juste eux. Ça donne cet élément-là qui va être bien important pour le Canadien.
Bien, tu vois, à Boston, là, actuellement, Zaka joue avec Pastrnak, puis Marchand joue avec Coyle. Ça ne veut pas dire que dans le match, tu ne retrouves pas Marchand et Pastrnak ensemble avec Zaka.
Non, parce que la dernière fois qu'on a vu les Bruins, Danny, là, ça se promenait. À un moment donné, on voulait avoir un but, fin de période, whoops, Marchand, Pastrnak, l'avantage numérique. C'est pas fini à tout jamais, cette affaire-là, mais au moins, tu as des options.
Nouvel entraîneur avec les Oilers d'Edmonton, McDavid et Draisaitl, les deux au centre. Même affaire. Ta force de frappe.
Puis qui leur a permis ça? Zach Hyman.
Oui, c'est sûr.
C'est l'émergence de Hyman qui a permis ça.
Oui, et c'est l'arrivée également dans les transactions. Là. C'est l'arrivée de nouveaux joueurs, Henrik entre autres, qui leur permet d'avoir un petit peu plus de latitude. Puis de replacer Nugent Hopkins à l'aile, parce que Nugent Hopkins, ils sont pas trop à l'aise avec lui à la position de deuxième centre. Ça fait que c'est un petit peu cette espèce de dynamique-là. Fait que c'est sûr et certain que l'arrivée de Dak dans l'alignement, ça donne beaucoup plus d'élasticité à l'alignement. Tu sais, ça te permet, t'as plus de place où tu peux mettre tes ailiers. C'est toujours la même chose. Puis moi, on peut-tu parler d'Henderson deux secondes? Je pense que Dak et Henderson, il y a comme des causes à effet. Parce que, tu sais, Henderson, c'est un vétéran. C'est un gars qui a marqué 20 buts par le passé chez le Canadien l'an passé. Puis là, tout à coup, là, c'est comme... Il joue avec Jake Evans. Puis je suis pas en train de dire que Jake Evans n'est pas un bon joueur. Mais lui, il doit peut-être se sentir un petit peu... Peut-être que lui aurait aimé d'être à la place de Slavkovski. Je suis pas en train de dire qu'il devrait être à sa place. Là.
Non, parce que ça arrivera pas.
Ben, tu vois, regarde, tu dis ça, là, puis lui, le joueur, mets-toi dans la peau du gars. Là. Il est sur le troisième trio. Il joue avec Evans. Il joue même pas avec New Hook. parce que Armia joue mieux que lui. Fait que lui, il y a des gars qui l'ont carrément surpassé.
Mm-hmm.
Moi, je pense pas que c'est permanent, là, sa disette. Moi, je pense que c'est un gars de 15-20 buts, comme le dit l'entraîneur, même 20.
Oui, oui. Il a confiance que ça va revenir.
Il a compté à son arrivée 17, ensuite 19, puis 21 l'année passée.
Ouais.
Puis là, il a 8 buts, puis écoute, il a encore hier manqué des chances. Là, puis tu vois qu'il y a rien qui marche.
Il a perdu le marbre. Il ne sait plus où est le marbre.
Il pense qu'il ne sait plus où est l'aréna. Je veux dire, ouais. il arrive, le match est commencé. Sincèrement, là, hier, là, c'était un match pour lui, puis il n'était pas au rendez-vous. Mais je pense que c'est relié au fait qu'il n'est pas heureux dans son utilisation. Puis là, tu sais, je suis pas en train de critiquer l'entraîneur. Je suis juste en train de faire un constat, d'essayer de voir comment ça, ce gars-là, il est de même. Comment ça qu'il se passe ça avec lui, alors que c'est un gars de 20 buts. Mais le Canadien, là, on est en train de développer l'avenir. On n'est pas en train d'essayer de faire plaisir aux plus vieux, là. Puis ce qu'on a fait avec Armia, puis en parlant dehors des zones, je pense pas qu'ils vont se rendre là, tu sais, de l'envoyer dans la Ligue américaine.
Oui, parce que ça a été son traitement choc à Armia.
Oui.
On a touché sa fierté.
Oui. Ça l'a vraiment ébranlé, mais est-ce que ça peut marcher avec Anderson? Est-ce qu'on devrait faire ça? On va dire, c'est un risque, c'est un jeu très risqué. Puis en même temps, ben, tu l'envoies dans la Ligue américaine, tu peux le perdre. Tu sais, ça fait que. Est-ce que le Canadien est prêt à ça? Je ne sais pas. Mais ça nous ramène à l'importance d'avoir des bons joueurs de centre. Puis ça, c'est le point que je veux mettre en perspective. Les bons joueurs de centre rendent les ailiers heureux. Puis. Et permettre un certain niveau de production. Puis ça vit pas tout dans la main du joueur de centre, là. Mais je trouve que, justement, le retour de Dak va nous permettre peut-être de relancer Anderson.
Je sais pas si ça va relancer Anderson, Danny, là, mais Anderson a été essayé avec tout ce qu'il y a joueur de centre chez le Canadien de Montréal, incluant Nick Suzuki. OK? Ouais. Aucun entraînement, là, on a cru encore une fois que ça pouvait marcher, Anderson, Caulfield et Suzuki, mais ça marchait pas. Alors, va falloir bientôt se demander, puis là, le contrat rentre en ligne de compte, puis pour terminer sur Anderson, tu sais, va falloir se demander s'il est vraiment assez bon pour remplir ce qu'on aimerait qu'il remplisse comme tâche.
Mais moi, Martin, je suis pas du tout à la même place que toi, là. Parce qu'il a compté 21 buts l'année passée. Fait que je sais pas, là,
okay.
pourquoi tu dis qu'il est là, tu es en train de te demander s'il est encore capable de jouer dans l'équipe, là.
Je suis en train de me demander s'il est encore capable de jouer avec des bons joueurs dans le top 6. Hmm. Ben, je pense qu'il peut jouer dans l'équipe. Mais avec lui, le problème, c'est toujours son salaire. Le salaire arrive dans l'équation. Puis là, ça fausse les données puis l'évaluation qu'on fait de lui. Mais vraiment, Danny, quand je regarde ce gars-là jouer, je me dis, est-ce qu'il peut vraiment être ce qu'on essaie de faire avec le top 6 de cette équipe-là? Peut-être pas.
Donc, ce que tu es en train de me dire, là, je vais prendre un chemin différent, tu es en train de me dire que lui, dans le fond, là, il fit pas avec la mentalité de l'équipe.
Pas la mentalité du top 6, Danny, peut-être pas. Puis actuellement, il se dessine qu'il y a des meilleurs joueurs devant lui.
Il y a une dualité, là. Lui, c'est un gros joueur, c'est un joueur physique. Le Canadien veut être plus physique, veut avoir une équipe plus agressive, plus engagée. Lui, il est capable de faire ça, là. Il faut juste qu'il soit heureux. Là, il est malheureux comme Pierre, là. Lui, c'est sûr que cette année, tu n'auras rien de lui, là. Fait que moi, tu sais, il s'inscrit. Moi, je trouve qu'il s'inscrit dans la complémentarité plus que comme un joueur clé. Mm-hmm. Je pense qu'il a été mal évalué au début. Son salaire vient avec la mauvaise évaluation. On l'a pris pour un gars qui marquerait 30 buts, il l'a pas fait.
C'est ça.
Puis, by the way, on pourrait dire la même chose de Caulfield. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un jeune joueur, là. Mais l'évaluation, c'est important parce qu'une fois que tu lui as donné le salaire, tu vas être obligé, mais tu te places un peu dans une situation pour utiliser un joueur de la façon dont tu le payes. Ça va ensemble, là.
Ouais, mais Caulfield, semble-t-il qu'il est en transition. Dans le sens oui. qu'il est en mouvance. Il est en train, selon Martin Saint-Louis, d'apprendre à améliorer certains aspects de son jeu, puis ça se vérifie, Danny.
Ben oui.
Honnêtement, là, c'est vrai. Puis Suzuki marque, puis Caulfield a des passes. Alors, tu sais, Caulfield, le tempo des premiers trios, Caulfield s'est pas éloigné de ça pour autant.
Non. Mais je dis simplement, Caulfield, là, j'en ai parlé hier, je vais le répéter, là, parce que là, moi, je peux t'amener sur ce terrain-là après avoir vérifié une couple d'affaires. Là. Caulfield, actuellement, des trois joueurs du premier trio, c'est le joueur qui a les meilleures statistiques à force de garde.
Mm-hmm.
En termes de fiabilité. Donc, il fait des bonnes choses.
Premier objectif atteint.
Exactement. Avec le coach est content, c'est normal. Après ça, l'autre affaire qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il est capable de jouer dans la circulation? Oui, il est capable, mais il faut qu'il réapprenne à jouer. Parce que lui, c'est un gars qui est habitué de rester dans les zones moins de circulation. Donc, sa grande glace, pas sa petite glace. Il allait moins à l'intérieur. Là, on lui dit, Cole, si tu veux marquer des buts, si tu veux être efficace, il faut vraiment que tu t'impliques. Il faut que tu sois capable de jouer dans les zones dangereuses. Donc, le long des rampes. Il faut que tu cours après la rondelle quand tu ne l'as pas. Il faut que tu mettes de la pression sur l'adversaire. Et tu dois récupérer des rondelles. Donc, utilisation de ton bâton, etc. By the way, il a amélioré l'utilisation de son bâton. Mais oui. c'est encore un des éléments sur lesquels il doit tabler. Toute l'équipe du Canadien, c'est pas une bonne statistique pour eux. Ils sont très loin dans le classement des équipes qui utilisent leur bâton. Comment on fait pour le vérifier? C'est sur les fameux takeaways, fameuses rondelles soutirées à l'adversaire.
Les rondelles récupérées à l'adversaire.
Soutirées à l'adversaire, volées, récupérées. Tout ce qui est l'adversaire à la rondelle, tu réussis à lui enlever puis à en prendre possession. Donc, il fait des choses vraiment intéressantes qui sont positives pour le trio. Mais ça se traduit pas en but. Puis donc, on l'a payé pour marquer des buts. Fait que là, l'organisation... Ce qui est fascinant, puis ce qui est très rare, c'est qu'il n'y a pas de panique. On sait ce qu'on fait, on a le chemin, on voit le tracé. Puis là, ben en cours de route, ben là, le tracé va peut-être changer parce que il y a de la construction.
Martin Saint-Louis a parfaitement confiance à son chemin. Ça a été son chemin à lui, Danny.
Oui.
Il a parfaitement confiance en cette recette-là. Ouais, ça a été la sienne. Alors, il prend sa recette à lui, puis il l'applique sur Cole Caulfield. Mais je vais te dire l'affaire. Il n'y a pas de fracture entre le Canadien, Martin Saint-Louis et Cole Caulfield. Ça travaille encore en harmonie. Mais je pense qu'avec Josh Anderson, il y a une fracture. Parce que si Josh Anderson ne veut pas nécessairement appliquer certaines choses concrètement dans son jeu, c'est parce qu'à un moment donné, il se dit « ils veulent plus mon bien, ce monde-là ». Puis mon bien, c'est moi qui va me le procurer.
La fracture, ça, Martin...
Ça, c'est dangereux. Puis ça, c'est là que tu récupères plus des joueurs. Armia, c'est presque arrivé de même, mais lui, c'était plus subtil. Lui, c'était plus sa confiance en lui. Puis là, ben le renvoi dans les mineurs a fait quelque chose, a déclenché quelque chose chez lui. Puis je me souviens de Martin Saint-Louis, quand on l'a renvoyé, lui a dit quelque chose comme « Ouais, mais lui, il faut qu'il sauve sa carrière, là. » Alors, tu sais, Anderson, est-ce qu'il veut encore sauver sa carrière avec le Canadien ou s'il espère dire, ben, ils me comprennent pas ici, là, puis j'aime mieux aller une place où ils vont me comprendre. Tu me suis?
Oui, je te suis, mais je veux juste revenir sur un élément quand tu parles de la fracture. La fracture, c'est une relation de confiance.
Mm-hmm.
Puis la relation de confiance, elle vient de la... À un moment donné, ça marche plus parce que faut que tu gères les attentes. Tu sais, Cole Caulfield, c'est encore un jeune joueur. Armia, il n'a jamais scoré 20 buts dans sa carrière. Fait que dans le fond, ce qu'on voulait d'Armia, c'est qu'il revienne et qu'il joue, là, qu'il soit capable de jouer. Dans le cas d'Anderson, là, c'est pas ça. Là, c'est une autre étape. Là, lui, Anderson, là, on l'a placé avec un joueur défensif et on lui a dit, fais-nous ça. Lui, ça le rend
joue
pas
robuste,
heureux.
Frappe puis envoie.
Tu comprends? Ça le rend pas heureux.
Non.
Donc, ses attentes à lui, la solution qu'on a trouvée chez le Canadien ne répond pas à ses attentes. Fait que lui, là, il est dans une situation où il faut finir l'année. Moi, je te le dis, ce que je regarde dans ce dossier-là, c'est simplement que faut finir l'année. On va recommencer avec une page blanche l'an prochain. Si l'an prochain, Martin, là, on est rendu à Noël... Puis qu'Anderson a trois buts, là. Lorsqu'on va se parler dans bon match, là, je te dirai plus la même chose.
Ben, ça va confirmer qu'il y aura eu une fracture. Puis qu'elle se répare plus.
Elle est là, la fracture, mais c'est ça. Là, peut-être
mais qu'elle se répartit. C'est ça.
T'sais, faut ça peut bien les casser.
Faut que les os se ressoudent. Armia, on a...
Bien dit, docteur.
Armia, on l'a comme immobilisé dans un plâtre. Puis ça a fait mal. Puis c'est la grosse opération. On a mis des vis là-dedans. Là. Puis là, il est revenu.
Il est allé en physio. On l'a envoyé en physio.
Et il joue.
À Laval. Puis voilà. Dr. Roule s'est occupé de lui. Il fait du bon travail.
Il est bon, Dr. Roule. En passant, là, il est pas mal bon. Ouais. On va s'arrêter là-dessus, Danny. Puis ensuite, on va aller voir si le bonheur de Sidney Crosby, pas le bonheur des pingouins, si le bonheur de Sidney Crosby est encore à Pittsburgh. Le bonheur, il est où? Il y avait une chanson comme ça, Danny, le bonheur, il est où? Est-ce que le bonheur, comme si je la chanterai pas, je veux que les gens restent à l'écoute. Le bonheur, est-ce qu'il est encore à Pittsburgh pour Sidney Crosby? Parce que quand on a regardé cette affaire-là, là, on l'a toujours regardé dans les yeux des pingouins, des dirigeants des pingouins, des partisans des pingouins, pour le bien des pingouins. Mais est-ce que le bien des pingouins s'aligne encore vraiment avec le bien de Sidney Crosby? Puis là, Crosby va se trouver très, très bientôt dans une situation où on va lui demander « Serait quoi ton bien à toi? » Moi, je me demande vraiment si les pingouins et Crosby peuvent encore s'aligner ensemble, poursuivre le même but, puis être bien tous les deux.
Écoute, Martin, tantôt, là, juste avant, là, t'as dit, il y a une fracture.
Oui.
Tu parlais d'Anderson avec l'équipe, le coach, oui. En tout cas, actuellement. Là, moi, je suis convaincu que la relation de confiance entre Dubus et Crosby, elle est déjà fracturée.
Écoute, ça n'a pas été long.
Ben, je suis sûr de ça. Puis la raison, c'est Jake Gensel.
Oui.
Parce que tu peux pas enlever au meilleur joueur de ton équipe son ailier de prédilection. Mm-hmm. Et après ça, l'amener dans ton bureau et dire, écoute, j'ai une solution. Inquiète-toi pas, tout va bien aller. Lui, il te regarde et il dit, on doit voir comment tu vas faire ça. C'est sûr qu'il est sceptique. C'est sûr qu'il y a une relation de confiance qui est effritée. La relation de confiance étant ce qu'elle est, c'est le cœur de tout. Si tu n'as pas confiance en ce bonhomme-là, en partant, tu te remets en question. Toi, tu te poses la question. Parce que là, c'est quand même pas un genou, là. Tu sais, le gars est au milieu de la trentaine, il est en fin de carrière, il commence à se demander. Là, il sait qu'il ne gagnera pas la coupe avec les pingouins, ils participeront pas aux séries. Là.
L'affaire d'Annie, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître Crosby vraiment personnellement pour s'apercevoir d'une chose. Il n'y a jamais assez de médailles d'or, il n'y a jamais assez de championnats. Puis quand on réussit pour une 19e année dans une grande carrière comme ça à réaliser un point par match, je pense pas que Crosby est au jour où il va dire « J'ai assez gagné de coupe, puis je peux souffrir 2 ans avec les pingouins avant de me retirer. » Moi, j'ai de la misère à figurer ça.
C'est sûr que lui, il se retire pas. La question, tu l'as dit tantôt, la question, elle est entière à propos de son bonheur.
Oui.
Il est où le bonheur?
Il est où le bonheur?
Est-ce que le bonheur est à Pittsburgh ou il est ailleurs? Le bonheur est ailleurs ou à Pittsburgh? Lui, là, c'est une question fondamentale parce que moi, d'après moi, là, je ne connais pas personnellement Sidney, on l'a juste croisé, puis bon, c'est toi qui fais les entrevues avec. Peut-être que tu peux y répondre mieux que moi, là, parce que tu as cette espèce de feeling-là, des fois, par rapport. Mais moi, je pense que c'est un gars de principe, lui.
Oui.
C'est un gars loyal. C'est un gars de tu sais, il est très. Puis d'ailleurs, c'est ce qui en fait un joueur très fort, très charismatique.
Très engagé.
Tout ce côté-là de loyauté et d'engagement, c'est très fort en lui. Donc, pour moi, ça va être une grande dualité pour lui de s'arrêter. Ça va le torturer énormément. Mais je suis convaincu, changement de garde, nouveau propriétaire à Pittsburgh, nouveau président directeur général, une direction qu'il ne connaît pas trop. Peut-être, là, je ne sais pas, je veux pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit, là. Mais peut-être pas très à l'aise avec la stratégie présentée. En tout cas, ce que je regarde du résultat initial, là, la première étape de l'effet domino de l'arrivée de Carlson et de l'arrivée de Dubus, c'est pas bon pour Crosby. Puis si c'est pas bon pour Crosby, c'est pas bon pour les pingouins. À moins que Crosby soit plus un pingouin.
Oui, puis là, c'est le temps peut-être de regarder si c'est plus là. dans quel genre d'environnement? Puis là, avant de parler des équipes, on peut essayer, Danny, de voir le genre d'environnement. C'est pas un gars, t'sais, parce que c'est quand même un salaire important, c'est pas 10 millions, mais c'est quand même un salaire important pour la dernière année du contrat. Puis après ce qu'il va signer, ben ce sera, ça appartiendra à lui là. D'après moi, après là, ça va être un peu comme Patrice Bergeron. Il va choisir l'environnement, puis ça dépendra pas beaucoup du salaire. Ça va être vraiment juste l'environnement. Mais prenons les données qu'on a là. Crosby peut pas vraiment s'intégrer à une équipe où il y a plein de vétérans avec des gros contrats à cause de son contrat, du moins pour l'an prochain. On est d'accord?
Oui.
Tu me suis là-dessus?
Oui.
Bon. Alors, s'il veut s'intégrer dans un meilleur environnement que Pittsburgh pour atteindre des objectifs, il doit choisir où le meilleur environnement, d'après moi, c'est une équipe un petit peu plus jeune qu'une équipe très, très là, au niveau de la maturité, juste un petit peu en dessous. Et lui arrive comme l'espèce de morceau qui vient bonifier ça. Puis, je t'en ai parlé, puis on le partage avec les gens qui suivent l'épisode 18 du balado Bon Match. Moi, je pense que les Canucks de Vancouver sont le genre de profil. Une équipe jeune, il n'y a pas trop de vétérans là-dedans, mais ajoute Crosby là-dedans, puis là, tu fais « wow ». Là, tu te dis, OK, là, on vient d'amener un gars au cœur extraordinaire, l'engagement, la passion, puis l'expérience. On leur amène ça. Ça peut être, il y en a d'autres équipes qui peuvent répondre à ce critère-là. Mais pour que les gens aient une idée, l'environnement, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, écoute, je suis un peu embêté parce que c'est sûr que Crosby... les gens qui nous écoutent se disent, ben, Canadien, tu sais, pourquoi pas
ben
le Canadien?
Oui, pourquoi pas?
C'est un Canadien, c'est un gars des Maritimes. On le sait, il y a beaucoup de gens des Maritimes qui sont très attachés aux Canadiens de Montréal. Oui. Les Canadiens en général, là, tu sais, c'est de toute façon, il y en a beaucoup qui sont partisans du Canadien. On le sait par les histoires lues à gauche et à droite, là, que c'est pas mal dans les racines familiales. Il y a ça. Est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait un bon coup pour le Canadien? Ben c'est sûr que c'est un coup marketing.
C'est quoi, Danny? Ça serait un bon coup pour Chicago aussi, là. Ça serait un bon coup pour Columbus.
Oui.
Mais tu sais, ça serait un bon coup de réunir Crosby à Connor Bedard. Mais est-ce que
le bonheur
Chicago
est là?
Ben c'est ça.
Parlons
du bonheur de Sidney Crosby.
Oui, c'est
pour ça que Montréal répond pas encore à toutes les critères pour voir ça dans les yeux du bonheur de Crosby. Toujours.
Ouais.
C'est ça la question. C'est là-dessus qu'on part aujourd'hui.
Ben, moi, là, si tu me parles d'équipes jeunes en devenir, etc., les deux sont dans la division du Canadien, puis c'est deux équipes en avant du Canadien. C'est Buffalo puis Ottawa.
Ouais.
Tu sais, mais Crosby, ça va pas à Buffalo, là.
Je pense pas.
Puis ça va pas à Ottawa dans un petit marché.
Puis Ottawa, je serais bien, bien surpris aussi. Puis là, ben,
facile, Martin, d'y trouver une place. Il faut que t'élimines les équipes de la métro. OK, en partant, là, on va se le dire, là. T'élimines la métro. Moi, je le vois pas aller jouer pour les Islanders, les Devils du New Jersey. Tu sais, c'en est une jeune équipe en devenir. Oh, oublie ça. Crosby jamais va aller jouer là. En tout cas, je pense pas.
Écoute, en termes de profil d'équipe, là, juste le profil d'équipe, change-le de ville, là. Tu sais, juste le profil d'équipe. New Jersey, en termes de hockey, serait peut-être un meilleur endroit pour le succès bientôt et sa contribution qui amènerait l'équipe au succès bientôt. Parce que déjà, le Hischier a du millage, puis ils ont une couple de gars avec du millage. Ce que le Canadien a pas, ce que les Blackhawks sont encore moins que le Canadien. Puis à l'autre extrême, tu peux pas, écoute, là, il va falloir que la moitié de l'équipe soit blessée tout d'un coup à Vegas pour leur entrer là. Ça peut pas rentrer là-bas. À Los Angeles, ils ont tellement engagé d'argent puis d'années de contrat sur des gars comme Dubois et compagnie, que c'est bien difficile de pouvoir l'entrer là, à moins d'en sortir un.
Ben,
puis là,
c'est sorti, ça.
C'est, mais en même temps, tu sais, médiatiquement parlant, puis comme à l'époque de Gretzky, parce qu'on en a déjà parlé, là, je l'amène sur le tapis, c'est sûr que ce serait formidable. Mais l'environnement hockey, il est pas facile pour rentrer Crosby dans ces équipes-là.
Non.
Es-tu d'accord?
Ouais, je suis d'accord, mais si tu regardes d'un point de vue simplement de faisabilité,
ouais,
à Los Angeles, c'est sûr qu'il y aurait une volonté de trouver une solution.
Puis son bonheur, es-tu là? Son bonheur à lui, là.
C'est, moi, je pense, je vais te dire la place où il est, son bonheur, OK?
Oui.
Oui, je sais pas comment il ferait pour faire arriver ça, mais
ouais,
pour moi, Crosby, son bonheur, s'il y a une place où... Hein? Quoi? Colorado. Colorado,
ah ben
pour
oui,
jouer avec son chum.
Ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est dur à faire.
Ah,
attention,
ben là,
c'est dur à faire.
Si tu regardes la situation à 8 millions là, qui dans laquelle il est, puis tu vas être obligé de le payer 10, là, ben c'est sûr que là, il faut que tu réaménages complètement ton équipe. Fait que, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est quand même un petit marché. Mais si tu me parles du bonheur de Crosby, au départ, le bonheur de Crosby, pour moi, est possible au Colorado.
À moins que Crosby dise ou pense, puis ça encore là, il ne partagera pas avec nous, il ne partagera pas avec la planète hockey tout entière, il va le partager avec ses proches. À moins qu'il soit rendu une espèce d'étape dans sa vie où il dit « l'argent, c'est plus important ». Pour moi.
C'est ça.
Si je m'en vais de Pittsburgh, si j'accepte d'enlever ce chandail-là de sur mon dos, ce que j'avais peut-être jamais vraiment envisagé, mais si je le fais, je vais choisir un endroit pour que ça marche sa glace, puis que ça vienne me chercher d'un trip. Puis ça, ben ça va faire peut-être en sorte que l'argent, je vais devoir le laisser de côté. Mais ça, cette réponse-là, pour l'instant, il y a personne qui l'a. Mais dans notre discussion, Danny, là, on a l'air vraiment à dire, dans cet épisode-ci, que son bonheur à lui est plus à Pittsburgh. Peut-être que le bonheur des Pingouins est encore avec Crosby, mais son bonheur à lui est plus vraiment là.
Non, ben, à moins que Dubus sorte un lapin de son chapeau,
ouais,
soit capable de rendre Crosby heureux. Est-ce qu'il est capable de ramener Guentzel? Parce que Guentzel a dit, hey, moi, je reviendrai en courant. Est-ce qu'il est capable de le ramener? Mais là, la question est entière, parce que si Guentzel s'ouvre au marché et attend, parce qu'il souhaite revenir à Pittsburgh, là, je sais qu'on est en train d'inventer un film hollywoodien, là, mais ça se peut, là. Tu sais, on ne sait pas là, qu'est-ce qui se passe entre les quatre murs, mais une chose est sûre, c'est que moi, si je suis dans les souliers de Dubus, là, parce que là, on prend la dynamique, on l'inverse, je sais très bien que mon succès à court terme, c'est de rendre certains joueurs qui ont des contrats heureux.
Ouais.
C'est mon succès à court terme, c'est ça. C'est pas autre chose que ça, là, parce que ces gars-là, c'est eux qui vont faire, qui ont la destinée de l'équipe, ils l'ont entre les mains.
Ouais.
Et si ces gars-là sont pas heureux, ben là j'ai un sérieux problème. Je dois me départir de ces gars-là, puis je dois être capable d'expliquer ça au monde qui paye des tickets.
Mais s'il a échangé Jake Guentzel, Danny, là, s'il a échangé Guentzel, c'est parce que peut-être que lui, dans ses profondes convictions, Carl Dubus, il pense que les Pingouins sont rendus à rebâtir.
Ben, il pense ça, mais au départ, il se dit, je peux pas laisser passer la période de transaction, sachant très bien que mes chances de participer aux séries sont nulles. Je peux pas laisser passer la période de transaction et pas transiger Guentzel.
Ils sont battus, les Pingouins, parce que l'équipe, là, ils ont essayé.
Et, ouais, c'est...
On les a croisés à ce moment-là, là, juste avant la date limite des échanges, puis ils ont essayé fort.
Oui.
Guentzel était blessé, c'est dommage, là, parce que si Guentzel avait été là, peut-être qu'il aurait réussi plus fort que ça, mais ils ont essayé. Mais c'est sûr qu'après, quand il est parti, puis vraiment, l'élément que nous n'avons pas dans cette discussion-là, puis c'est pour ça que c'est important de la regarder dans les yeux de Crosby plutôt que dans les yeux des Pingouins, parce que l'élément qu'on n'a pas, c'est que les propriétaires, les nouveaux propriétaires des Pingouins de Pittsburgh, parce que ce sont des nouveaux propriétaires, là, rappelons-le, Mario Lemieux, là,
il a encore, là.
Non, puis il n'y a plus vraiment affaire dans l'équation Mario Lemieux à Pittsburgh. Un petit peu, mais plus beaucoup. Alors, ça dépend comment on a embauché Dubas. Ça dépend comment Dubas a convaincu ces gens-là de l'embaucher.
Ça, c'est un élément important.
Puis on l'a pas, cet élément-là, Danny.
Oui. Mais je peux te dire que, mettons que c'est moi le propriétaire, là, j'engage pas Dubas en lui disant « Tu peux échanger Crosby. » Dubas en lui disant « Tu peux rebâtir l'équipe, mais... »
Tu lui demandes c'est quoi ton plan, là?
Le poteau qui est dans le milieu, c'est pour faire tenir le toit. Là. Si t'enlèves le poteau, le toit va s'effondrer. Fait que essaie d'arranger ça autour du poteau, là.
Mais t'es d'accord que quand t'embauches quelqu'un, tu veux savoir son plan. Puis là, ben quand il est allé chercher Erik Karlsson, il allait pas chercher un jeuneau de 21 ans, puis il allait pas chercher un choix de première ronde pour repêcher Celebrini au repêchage. Là. Il allait chercher un gars qui était déjà avancé dans sa carrière pour gagner tout de suite. Mais c'est vraiment paradoxal, son affaire. C'est pour ça que regarder l'affaire dans les yeux, essayer de la regarder dans les yeux de Crosby, me semble qu'on voit plus clair.
Ben, en tout cas, on voit des choses qu'on voit pas si on regarde le portrait global. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que Dubas, il a juste voulu faire un coup d'éclat. Il a juste voulu dire, hey, on n'est pas assez bon en défense. Moi, je pense qu'il faut être meilleur. Il faut réussir à aller. Et là, il est rentré Karlsson.
Ouais.
Puis c'est fait plaisir à lui comme directeur général. Il a montré son immense talent de directeur général. Tu sais, je pense qu'il y a aussi de l'ego là-dedans. Là. Il y a une petite guéguerre d'ego. Là, il l'a rentré, Karlsson. Sais-tu quoi, ça n'a pas donné résultat escompté.
Connais-tu des collectionneurs dans ton environnement, toi?
Non, pas beaucoup.
Bon, moi, j'en connais pas nécessairement, mais ce que j'entends des collectionneurs, là, c'est qu'à un moment donné, leur passion, c'est une bébelle. Par exemple, tu collectionnes les voitures. Tu sais, les voitures anciennes.
Là,
ça me prend une Camaro 1969.
Ça me prend celle que personne n'a, là.
Un modèle original. Si je tombe dessus, là, vous allez voir comment je suis fort, je vais réussir à l'avoir. Puis je vais réussir à l'avoir à mon prix. Puis je vais avoir ma Camaro 69 dans mon garage de collection. Alors, je veux pas comparer un être humain à une Camaro 69, mais si je te suis, peut-être que ça a été un peu ce que Dubas a fait.
Exactement.
C'est ma Camaro 69. Ouais. Là,
mais tu sais, la Camaro 69, oui, Martin, elle est belle, la Camaro 69. Oui. Tout le monde la regarde, la Camaro 69. Mais sais-tu quoi? Pour aller travailler, là... Toi, lundi matin, ta Camaro 69, c'est pas ta meilleure idée. Mais là, t'es pogné, t'es presque obligé de prendre le métro pour aller travailler. Parce que t'as vendu tes deux autres autos pour réussir à avoir ta Camaro 69.
Puis ta Camaro 69, tu pitches pas ça d'un nid de poule au Québec, ça marche pas. Tu vas toute la démolir. C'était vraiment intéressant de voir ça. Beaucoup plus dans les yeux de Crosby.
Il est où le bonheur? Il est où le bonheur?
C'est où le bonheur de Sidney Crosby? C'est peut-être plus à Pittsburgh. On s'arrête et au retour, on va parler des marqueurs de 50 buts. La recherche du bonheur, Danny, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps quand on veut aller s'installer à quelque part. On a des partenaires privilégiés en Remax avec le balado Bon Match. Oui. Puis si tu veux voir avec les bons yeux, trouver la maison de tes rêves, puis donner le bon mandat aux gens de Remax qui sont spécialisés là-dedans, faut que tu puisses savoir c'est quoi ton bonheur. Qu'est-ce qui va faire ton bonheur?
Moi, je sais bien, Martin, là, j'achète une maison, là, c'est de l'émotion. Fait que t'as besoin de monde qui sont capables de voir un peu à travers toi, qui sont capables de prendre une lecture, savoir quelle sorte de personne que tu es, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce que tu cherches, ta façon de vivre, etc. Ça glace sa façon de vivre, on le sait, Crosby, c'est quoi. Mais peut-être qu'à l'extérieur, peut-être que lui va avoir peut-être besoin d'un peu d'aide si son bonheur est ailleurs.
Alors, la petite touche de rationnel dans votre bonheur, ça peut être Remax.
Voilà.
Mais il y a une affaire, c'est que la Ligue nationale a trouvé peut-être son bonheur cette année avec Danny potentiellement presque une dizaine de joueurs qui pourrait toucher les 50 buts à la conclusion de la saison. Il y en a pour qui ça va être plus difficile, il y en a pour qui c'est déjà fait. Pour le bien de la conversation, là, au moment où nous enregistrons ce 18e épisode de Bon Match, il reste quelques matchs à jouer. En moyenne, 5, 6, 7 et même 8 matchs à jouer pour certaines équipes. Matthews a 62 buts, Reinhardt en a 52 et Hyman a 52 buts. Ce sont les trois gars qui ont passé la marque des 50. Juste en dessous, Danny, là, il y a le groupe qui pourrait l'atteindre. McKinnon, Pasternak, Panarin, Pointe, Kucherov. Dans les plus difficiles, là, pour fermer la marge, c'est Philip Forsberg et Jonathan Marchessault.
Ouais.
Mais c'est exceptionnel qu'on soit rendu à presque 10 joueurs aux portes des 50 buts, dont 3 qui ont déjà dépassé, puis un qui est rendu à plus 60.
Oui, parce que le jeu est de plus en plus serré. C'est difficile, même si il y a quand même plus d'avantages numériques, les joueurs sont meilleurs. L'avantage numérique, c'est plus structuré qu'avant. Mais ça reste difficile de marquer des buts. Ça reste peut-être plus facile de marquer 20-25 buts qu'avant. Mais ça devient beaucoup plus difficile d'atteindre les plateaux de 50, 60 et évidemment 70 buts.
Ça prend tellement de choses, Danny, pour marquer 50 buts. Puis on a vu de près Sam Reinhardt à deux reprises dans le mois de mars, là, puis en avril, quand les Panthers sont venus cette semaine au moment de l'enregistrement de cet épisode-là. Puis tu sais, Sam Reinhardt, il fait pas juste attendre, là. On l'a vu aller dans le visage de Samuel Montembeau, aller tenter de faire dévier des rondelles. Puis au début de cet épisode-ci, on a parlé un peu de Caulfield puis de la réapprentissage. Tu sais, Matthews, des fois, il s'installe au cercle, puis tire une bombe, puis bang, la lumière allume derrière le gardien, puis le gardien n'avait aucune chance. Mais le début où Matthews s'est allé salir le nez pour les compter, ces buts-là.
Oui, mais moi, la chose que je trouve qui est vraiment essentielle dans ce qu'on voit, là, puis ça, c'est récurrent, c'était comme ça à l'époque, puis c'est encore comme ça, c'est que si tu veux avoir un marqueur de 50 buts dans ton équipe, il faut que tu trouves le gars qui a vraiment la touche, mais aussi que tu l'entoures.
Oui.
Parce qu'il n'y a aucun joueur qui est capable de marquer 50 buts si ce n'est pas lui-même le joueur de centre et c'est un marqueur naturel ou s'il n'y a pas un entourage qui va lui donner la rondelle de la bonne façon. Parce que tu prends les gars, les Kreider, tu prends les Draisaitl, Ovechkin et compagnie.
Ouais.
C'est 50 buts, là, Ovechkin, c'est avec Backstrom.
C'est
un petit peu avec Kuznetsov, mais surtout avec Backstrom. Tu regardes Pasternak, puis là, Pasternak, ben c'est quand même assez phénoménal qu'il soit capable de continuer à produire au rythme où il produit avec le départ.
Après avoir perdu Bergeron.
Avec le départ de Bergeron. Et McDavid, tu dis, t'arrêtes là, puis tu dis, hier, je parlais de ça justement. Écoute, Draisaitl, il a marqué 30 buts, 32 exactement l'an passé en avantage numérique. Mm-hmm. Penses-tu vraiment qu'il est capable de marquer 32 buts en avantage numérique s'il ne joue pas avec McDavid?
Non.
Il y a la moitié de ces buts-là, c'est sûr là, que c'est McDavid qui fait la passe directe. Là.
Non, puis Hyman aurait jamais atteint ce niveau-là, Danny, s'il n'avait pas joué toute la saison avec Connor McDavid.
Mais non, c'est sûr.
Il se serait jamais rendu là parce que Hyman, c'est différent de Draisaitl comme joueur, mais ultimement, c'est parce qu'il reçoit tellement la rondelle au bon moment puis au bon endroit que je dirais pas que c'est facile parce que c'est pas facile de marquer 50 buts, mais c'est ça qui fait qu'il marque 50 buts. Il reçoit la puck à bonne place au bon moment.
Ben, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dirais plutôt qu'il va chercher la puck. Lui, c'est justement parce que ses 50 buts, c'est le fait qu'il est capable d'aller à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, puis en plus, c'est pas un géant, lui-là, là, mais il va à l'intérieur. Reinhardt va à l'intérieur. Ces gars-là sont dans l'enclave.
Ben oui, mais c'est ça. La rondelle, elle vient, là, Danny, tu sais, parce qu'à un moment donné, je me réfère au match contre le Canadien, là. OK? Mm. Tu sais, Hyman, il rentre, là, tête baissée. Il rentre dans le milieu, dans la zone payante. Puis là, bang, la rondelle arrive.
Oui, mais dans le nombre de buts qu'il a, si tu fais un décompte de ses 50 buts, déviation, retour de lancer, deuxième chance, c'est probablement la moitié de sa production. Là. C'est le joueur dans la Ligue nationale, parmi les marqueurs naturels, c'est celui qui marque le moins de buts sur des passes directes. C'est lui, il fonce au filet avec la rondelle où il récupère des retours de lancer. Beaucoup plus que les Rantanen, les Draisaitl, les compagnies. Si tu me disais Draisaitl reçoit la rondelle au bon moment, oh que oui. Lui, c'en est un. Lui, c'est très rare que c'est sur des retours de lancer parce qu'il est entré pour aller dans la circulation. Malgré son gros gabarit, ça reste un tireur élite. Là. Mais le joueur qui va le plus dans la... C'est un peu comme Kreider. Hyman, c'est des gars qui vont à l'intérieur puis ils payent très, très cher pour chaque but qu'ils marquent.
Puis là, l'autre catégorie cette année, là, dans, parlons de ce groupe des 10, même si Forsberg et Marchessault sont quand même assez loin de 50, c'est pas impossible, mais assez loin de 50 avec le nombre de matchs qu'ils ont à jouer. Quoique Marchessault il nous surprend tout le temps, il peut peut-être le faire encore là, mais dans ce groupe là, Danny là, Pointe, c'est un joueur de centre, Matthews, c'est un joueur de centre, McKinnon, c'est un joueur de centre. Alors ça, c'est ce sont des gars qui pour prendre le thème du bonheur, eux autres ils fabriquent leur bonheur.
Oui.
C'est un peu ça.
Mais regarde, chez nous, c'est un joueur de centre. Nick Suzuki, c'est le meilleur. C'est il est rentré à 32. C'est un joueur de centre.
Oui.
Est-ce que nous, on va en avoir un, là, parce que, tu sais, il faut remonter à 89-90 à peu près. Là, c'est ça, hein? 30 quelques années, là, pour Stéphane Richer, c'est quand même pas rien.
Ça fait longtemps.
Le marqueur de 50 buts, ça fait longtemps. est-ce que tu peux... Tu sais, tu regardes, c'est sûr que tu peux gagner la coupe sans avoir un marqueur de 50 buts, là, tu sais, parce que on le voit, ça. On l'a vu par le passé. Mais ça te prend vraiment de la profondeur offensive. Puis la profondeur offensive est beaucoup plus là aujourd'hui qu'elle l'était par le passé, parce qu'il y a des, justement, on est capable d'avoir le duo. Chez nous, le duo, pour l'instant, c'est Suzuki Caulfield, mais je sais pas si ce duo-là, à terme, va devenir le duo qui va nous amener à la terre promise. C'est, je le sais pas ça, mais une chose est sûre, c'est que on a des gars qui éventuellement qui vont s'approcher de 40 buts, mais 50 buts, je sais pas.
Mais pour le show, Danny, là, le show, c'est-tu bon, pas à peu près, d'avoir ces gars-là, ce groupe de gars-là qui domine la ligue, parce que 50 buts, c'est wow. Tu sais, c'est comme au baseball, tu vas chercher un certain nombre de circuits, tu dis wow, il y a un petit groupe là qui est bon. Les lanceurs, tu sais, quand tu commences à toucher les 20 quelques victoires, là, tu dis wow, c'est un lanceur partant au-dessus de 20 victoires, ça commence à être sérieux. Là, t'es à même d'apprécier la qualité d'une ligue. C'est que malgré tous les stratèges défensifs qui sont vraiment rendus tellement, tellement développés et tellement précis, pointilleux, ces gars-là réussissent. Même si les gardiens sont encore très bons, très, très bons, ces gars-là réussissent. C'est là que ton spectacle, il vient de lever 3 coches.
Oui, c'est sûr. Mais tu sais, tu regardes des années, des grandes années. Là, moi, je me souviens dans mes années de coaching, il faut revenir aux années 90. Puis, tu sais, des marqueurs de 50 buts, là, ça courait pas les rues. Là.
Non. Puis Dieu sait qu'à l'époque, il y avait encore une coupure entre les très, très bons joueurs offensifs de la Ligue puis les autres joueurs de leurs équipes respectives. À ces gars-là, il y avait une coupure.
Oui, la différence entre le meilleur et le moins bon était assez grande. En fait, effectivement. La
troisième. Ce qui n'est plus le cas maintenant, là.
Quatrième ligne, là, le joueur, sa quatrième ligne, il était lent. Aujourd'hui, le joueur, sa quatrième ligne, il patine sans la rondelle. Souvent, il patine aussi vite qu'un joueur de premier trio. C'est sûr, si la rondelle, là, c'est pas pareil. Mais, je te prends un exemple, là, comme ça, là, sur mon ordinateur, 90-91. Brett Hull a 86 buts cette année-là.
Oui.
Mais, t'as juste 3 gars qui ont 50 buts et plus, là.
Peut-être.
Heisman, Cam Neely, puis Théoren Fleury. Mike Gartner, 49. Après ça, t'as Joe Sakic, 48. Mm. Bon, Robitaille, 45. T'as quand même des chiffres impressionnants, là.
Oui.
Mais c'est pas tant, là. Puis des joueurs qui ont 100 points, là, et t'en as 3, là. Brett Hull, t'as Fleury, Puis t'as Steve Yzerman à 108 points. C'est tout, là. Après ça, t'es en bas de 100 points. Là, nous autres, là, écoute, c'est vraiment impressionnant. Puis t'as des joueurs qui ont marqué plus de 500 buts, puis ils sont encore très productifs dans la Ligue nationale.
McKinnon et Kucherov, là, Danny, quand ça va se terminer, quand le rideau va se fermer pour la saison 23-24, là, tous les deux vont avoir dépassé 130 points.
Ouais.
Facile.
Oui.
Ah non, facile d'ici la fin. Tu as au moins deux joueurs qui dépassent 130 points.
Oui. Oui. Ah non, t'es déjà... pardon. Que tu es à peine 60, à l'aube des 75 matchs, parce que pas tout le monde qui les a joués.
Oui.
d'avoir déjà des gars qui ont 100 points et plus, là, puis dépasser. Là. Écoute, c'est fou. Là. Rantanen est plus bas là, à 100 points. Là. Et 100 points juste, là, t'en as 6. Fait que, là, ça a été là, 98. Écoute, prenons jusqu'à 95. Là. Les 10 premiers marqueurs. J.T. Miller, d'ailleurs, pour moi, qui est un gars qui est sous le radar.
Ouais.
Pardon, il est 10e. Il a 95 points. Il va finir avec 100 points. Là.
Ouais.
Ça, t'as 10 gars de 100 points. Imagine. Mm. 10 joueurs de 100 points.
Et Danny, ces statistiques-là démontrent une chose, c'est que on a repoussé les limites dans le hockey. On a vraiment repoussé les limites dans le hockey parce que, en plus, ces gars-là, t'en as parlé souvent pour McKinnon, pour Braden Point, même pour Austin Matthews, ce sont des joueurs qui, en plus, ne font aucun compromis quand vient le temps de défendre pour leur équipe.
Non, c'est sûr.
C'est ça qui est phénoménal.
Je regarde aussi l'endroit où les gars tirent là, et leur pourcentage d'efficacité. Tu sais, Austin Matthews, il a 62 buts, Martin. Là. Il y en a 47 à forces égales. Son pourcentage est à 19 %. C'est ahurissant.
Oui.
De penser à quel point ce gars-là... Il est extraordinaire. Reinhardt, là, il est dans un petit passage à vide, là, mais il est à 24 %. 24 %, il a 52 buts. Mais lui, pourquoi il est à 24 %? Parce qu'il a beaucoup de buts en avantage numérique.
Ben, c'est ça.
Fait que lui, c'est sa grande différence là, entre les deux. Là, écoute, Austin Matthews, il a juste 15 buts en avantage numérique. L'autre en a 27. Là. Il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a atteint les 20 buts en avantage numérique. Puis lui, il est à 27.
En même temps, tu sais, là, ce sera un débat une autre fois, là, mais
oui.
Tu sais, c'est la valeur que tu donnes à quelqu'un qui marque beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts en avantage numérique, puis celui qui en marque beaucoup, beaucoup à 5 contre 5. Tu sais, c'est dans les yeux des gens qui regardent que se voit la différence, là, mais c'est pas tout le monde qui vont donner la même valeur à l'un ou à l'autre.
Ben, je vais poser la question, moi, tu vas gagner la coupe avec. Avec quel genre de joueurs? Des joueurs que tu vois plus en avantage numérique? Ou
pour moi, c'est 5 contre 5. Pour moi, c'est 5 contre 5. Parce que gagner à coupe, là, c'est parce que gagner à coupe, pour gagner à coupe, faut que tu joues à peu près 22, 23, 24 matchs où il y a quasiment plus d'avantage numérique.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est là qu'il faut que tu fasses la différence. Pour gagner à coupe.
Exact.
Gagner le championnat des pointeurs ou des buteurs, c'est une autre affaire.
Mm. Tu sais, je te disais que Hyman, c'est un gars qui va dans le trafic. Là. Lui, là, dans les buts à 5 ou à force égale, là, il est deuxième. Il est après Austin Matthews. Il y en a 37. Puis le gars qui est à égalité avec lui, c'est McKinnon. Fait que lui, là, il est dans l'élite, la crème de l'élite au niveau des buts à 5 contre 5.
À 5 contre 5.
Puis ça te donne une idée à quel point il va dans la circulation.
Ouais, puis pour moi, personnellement, perso, là, mm-hmm. Ça a beaucoup plus de valeur qu'un gars qui en marque 27 en avantage numérique.
On est à la même beaucoup place, plus de valeur. Mais moi, tu sais, je le sais que dans l'enclave, il y a beaucoup de... La souffrance est dans l'enclave. Mais...
Oui.
mais c'est là que c'est payant.
l'idéal, Danny, là, c'est d'avoir un gars comme ça, qui une machine à marquer des buts à 5 contre 5, qui remorque ton équipe, puis d'avoir dans ton groupe... là. Un sniper qui, lui, l'avantage numérique, il sait comment ça marche. Il n'y a pas besoin d'en marquer 29. S'il est autour de 20-21, là, c'est parfait. Ouais. Là, t'as le meilleur des mondes. T'as la machine qui te donne des buts à 5 contre 5, puis t'en as un autre qui peut t'en donner une vingtaine à l'avantage numérique. Alors, avec une vingtaine de buts, un peu en bas de Reinhardt, qui est une exception, là, avec Draisaitl. Mais si tu vas un petit peu en bas de ça, le mariage des deux, il est vraiment parfait, là.
Oui, oui. Ben, c'est un peu ça qui arrive avec Panarin cette année, là.
À New York.
Il y a quand même 34 buts en avant, à 5 contre 5.
Ouais.
Mais on sait très bien que c'est pas lui qui va dans l'enclave le plus.
Non. Là. C'est ça.
Mais Lafrenière est un joueur transformé depuis qu'il joue avec Trocheck. Puis on a parlé de ça à quelques reprises. On pourra faire un exercice un petit peu plus approfondi là-dessus éventuellement. Mais c'est la clé, c'est ça, c'est le mélange. Comment tu réussis à créer ça? Parce que Tkachuk, c'est la même affaire. Il n'y a peut-être pas autant de buts cette année, mais il y a beaucoup de passes. Puis souvent, c'est lui qui vient chercher la rondelle dans l'enclave, qui va la redonner à ses coéquipiers ou qui tire, puis là, c'est l'autre qui prend le retour puis qui marque le but. Enfin, toute cette dynamique-là, ça se fait avec des joueurs qui créent de l'espace pour leurs coéquipiers.
On espère, mesdames, messieurs, que le bonheur pour vous a été avec nous durant cet espace.
Oh, que c'est bien dit.
C'est-tu bien conclu?
Le bonheur est dans bon match.
Merci. Merci à notre ami Pierre Gervais qui a participé à ce 18e épisode du balado Bon Match. Au revoir, mesdames, messieurs. À la prochaine.